Radio Kapi.
Le journal Jocelyne Moussaopondé.
Les déplacés de guerre situés à 15 km de Lubero-Centre disent n'avoir reçu aucune assistance pendant la trêve humanitaire de 15 jours dans l'est du pays. La société civile urbaine de Beni espère voir les humanitaires accéder à ces zones avec la prolongation de cette trêve. Aucune église ne peut s'installer à moins de 500 mètres d'une autre et les pasteurs doivent désormais détenir des permis de culte délivrés par le ministère de la Justice. Ces décisions figurent parmi les mesures prises par le ministre Constant Moutamba, contenues dans un communiqué publié hier. Notre invité, c'est Alphonse Mata. Il est coordonnateur provincial du programme d'appui au développement rural inclusif et résilient Padri Grand Sigle. Bonsoir à tous. Commençons au Nord Kivu, dans les territoires de Lubero. Des milliers de déplacés disent vivre un véritable calvaire à Kipese, une agglomération située à 15 km de Lubero Centre. Ils affirment n'avoir reçu aucune assistance pendant la première trêve humanitaire de 2 semaines. La coordination urbaine de la société civile de Beni espère qu'avec la nouvelle prolongation de la trêve humanitaire, les organisations humanitaires auront cette fois-ci accès aux zones de déplacés. André Kitenge pour les détails.
Ces déplacés, en majorité des femmes et des enfants, ont fui il y a 2 mois l'avancée des rebelles du M23 vers la commune rurale de Kanyabayunga. Ils disent vivre un calvaire et n'ont reçu aucune assistance pendant la première trêve humanitaire. L'un d'eux explique.
La situation que nous sommes en train de vivre, moi-même déplacé de mon état, nous sommes en train de vivre une situation purement chaotique. C'est du calvaire que nous sommes en train de traverser. Depuis que les 2 semaines viennent de s'écouler, des soi-disant trêves, il n'y a jamais pas même un humanitaire qui arrive pour soulager, t'assoper, les déplacer.
De sa part, le président de la coordination urbaine de la société civile de la ville de Beni pense que cette deuxième trêve humanitaire décrétée par les États-Unis d'Amérique est une occasion pour les humanitaires d'atteindre cette fois-ci tous les déplacés. Pepe Kavota n'exclut pas également le gouvernement congolais.
Maintenant que les États-Unis d'Amérique a encore prolongé de 15 jours cette trêve, et nous pensons que ça peut être encore l'occasion que les humanitaires que nous appelons ici de venir en aide à notre population. Pas seulement les humanitaires, mais la première personne qui doit le faire, c'est l'État congolais.
Selon l'administrateur du territoire de Lubero, au moins 10 000 déplacés qui ont fui l'avancée des rebelles du M23 vivent à Lubero Centre sans assistance humanitaire. André Kitenge, Beni Radio Okapi.
Nord Kivu encore, la situation sécuritaire est préoccupante dans la région de Bambour et ses alentours. C'est dans la chefferie de Bouito, territoire de Rutshuru, une zone abandonnée par les rebelles du M23. Plusieurs attaques et vols armés, des pillages et autres exactions ont récemment été enregistrés dans différents villages et la population ne sait plus où trouver refuge. D'après un notable de la région, il s'observe un vide sécuritaire dans cette zone, ce qui laisse l'occasion aux bandits armés de commettre leur forfait. Isaac Kibira ajoute que la population vit dans la psychose et craint qu'il y ait des tueries en masse si rien n'est fait. Il a été joint par Sifamagro.
Pendant les heures vespérales, la population est surprise toujours par l'incursion des hommes en armes non autrement identifiés. Alors, des cas de vol, en tout cas, sont tellement signalés et ils entrent porte à porte. Alors, cela inquiète l'ensemble de la population. La population manque où aller. L'agglomération de Bambou traverse un moment difficile. N'a aucun service de sécurité qui est en train de les sécuriser. Les M23 sont au niveau de Kichiche, à plus ou moins 8 km. Wazalendo sont un peu éloignés dans la brousse. Alors, les bandits profitent de l'occasion pour, dans cet imbroglio, font des incursions dans cette agglomération. Nous avons peur comme quoi, dans ce village, il y aura encore des tueries. Il y aura encore aussi la bandit de ces villages pour se retrouver ailleurs. Voilà ce qui nous inquiète pour la sécurité des paisibles citoyens qui viennent de quitter la brousse, les lieux de refuge partout où ils sont allés.
Isaac Kibira remercie par la même occasion le CICR qui a pu assister et soulager la souffrance de la population. Il demande à d'autres organisations humanitaires de se rendre dans la zone des Bouito affectée par la crise humanitaire. En Ituri, le porte-parole de l'armée rassure la population que les positions des FARDC sont installées dans les territoires de Mambasa et d'Irumu pour étouffer les menaces des rebelles et des ADF. Le lieutenant Jules Ngongo réagit à l'inquiétude des acteurs de la société civile sur la progression de ce groupe armé. Il demande aux habitants de ne pas céder à la peur qui est le mode opératoire de ces ADF pour les contraindre à abandonner leur village et piller leurs biens, mais de collaborer avec l'armée pour les dénicher ainsi que certains fils égarés qui se déguisent en ADF pour des intérêts égoïstes. Le lieutenant Jules Ngongo est joint par Isaac Rémo.
Nous disons que c'est ça leur mode opératoire, faire peur aux gens et créer la psychose pour pousser la population à fuir, abandonner leurs milieux pour leur exploitation. Et donc nous sommes à notre poste du devoir, notre tête est sur nos deux épaules avec notre population. Nous allons le mettre hors d'état de nuit. Qui sont à Makutano? Ce sont les ADF. Qui sont à Moroyo? Ce sont les ADF parce qu'ils étaient là-bas. Mais c'est la population maintenant qui occupe ces milieux parce que nous avons pacifié cette zone. Nous appelons la population à ne pas avoir peur, mais plutôt à contrer carré tous leurs mouvements en petits groupes qui sont en train de faire pour créer la psychose. Voilà la raison pour laquelle nous vous disons que en Irumu comme en Mambasa, la majorité, ce sont les faux ADF qui travaillent sous la belle de ZADEF pour créer la psychose et la paix. C'est pas aujourd'hui, nous allons le dire. Nous avons arrêté combien les ADF? Tous, ce sont des gens, des jeunes gens du milieu. Et donc la population doit bannir la paix et faire le fond commun avec l'État pour le mettre hors d'état de nuit.
Ici à Kinshasa, le mandataire national de l'Association des chauffeurs du Congo, ASECO, demande aux chauffeurs de respecter les mesures prises lors de la dernière réunion organisée le week-end dernier avec la police. Il s'agit d'éviter de rouler tard la nuit. Jean Mutombo l'a dit ce dimanche à Radio Okapi après la découverte du corps d'un chauffeur sur le boulevard du 30 juin dans son croisement avec l'avenue Batetela. Il affirme qu'un autre chauffeur, qui lui a eu la vie sauve, s'est vu arracher son véhicule cette même nuit après avoir été ligoté et jeté sur l'avenue des Poids Lourds. D'autres explications avec vous, Étienne Lissoumbou.
Selon le mandataire national de l'Association des chauffeurs du Congo, ASECO, les bandits ont changé de stratégie. Ils préfèrent neutraliser les chauffeurs et les jeter quelque part et prendre les véhicules. C'est le cas du chauffeur qui a été jeté hors de son véhicule sur croisement Batetela et boulevard du 30 juin. Pour lui, fort malheureusement, il est décédé après avoir été tamponné par les autres véhicules qui roulaient à vive allure sur le boulevard du 30 juin. Jean Mutombo précise que la jambe et les bras de la victime étaient cassés, sa tête également fracassée. Pour faire face à ces énièmes meurtres des chauffeurs, Jean Mutombo conseille aux chauffeurs de mettre en pratique le conseil que le patron de la police de Kinshasa a prodigué le week-end dernier d'éviter de circuler la nuit pour sa propre sécurité.
Aucune église ne peut s'installer dans un rayon de 500 mètres par rapport à une autre. Pour exercer comme pasteur, il faudra aussi obtenir un permis de culte délivré par le ministère de la Justice. Cette décision figure parmi les mesures prises par le ministre d'État. Un ministre de la Justice est rendu public dans un communiqué hier samedi sur les réseaux sociaux. Ces mesures interviennent subsidiairement aux résolutions des travaux de la commission multisectorielle culte et association chargée de l'assainissement, la régulation et la structuration du cadre de fonctionnement des associations sans but lucratif tenu du 5 au 15 juillet dernier, précise le communiqué. D'autres détails avec vous, Alain Rung.
Selon ce communiqué, toute requête en obtention de la personnalité juridique est soumise pour sa recevabilité aux conditions pertinentes des dispositions des articles 4 et 32 de la loi 004/2001 et à la production du procès-verbal de l'enquête de viabilité du siège et des activités. Aussi, toutes les associations sans but lucratif ayant autrefois obtenu le numéro folio 92 ou F92 sont tenues de se conformer à la loi en obtenant la personnalité juridique dans un délai supplémentaire de 3 mois à dater du 20 juillet 2024. Ne peut appartenir à une association confessionnelle qu'une église, une communauté, un ministère, une assemblée autonome, un centre d'évangélisation, un groupe de prière régulièrement constitué, détenteur d'une personnalité juridique, indique le communiqué. Toute tenue d'assemblée générale d'une ASBL est conditionnée par la présence de 2 délégués du ministère de la Justice. Enfin, le ministre de la Justice interdit strictement à tous les services communaux, spécifiquement le service d'éco, de s'immiscer dans les attributions du ministère de la Justice.
Dans la province du Sankoro, fermeture jeudi dernier jusqu'à nouvel ordre d'une unité des sœurs de la communauté franciscaine de Tchoumbé, affectée à Tchapémé au grand séminaire Saint-Jean-Paul II de Lodja. La décision a été prise par l'évêque du diocèse de Tchoumbé, Vincent Tchomba. Une autre mesure qui est tombée le même jeudi est le renvoi définitif de deux séminaristes par le recteur du grand séminaire Saint-Jean-Paul II. Une situation qui a donné lieu à diverses interprétations d'après des sources concordantes. Des explications avec Esther Dalafina.
Selon les informations en notre possession, un communiqué officiel signé par l'évêque du diocèse de Tchoumbé, il n'y aura plus de sœurs affectées à Tchapémé au grand séminaire Saint-Jean-Paul II, et cela jusqu'à nouvel ordre. Cette décision est consécutive, d'après certaines indiscrétions qui circulent dans la région, à la visite de deux grands séminaristes au couvent des sœurs franciscaines aux heures tardives, sans autorisation préalable. Ces deux séminaristes sont d'office renvoyés sur décision du recteur du grand séminaire Saint-Jean-Paul II de Lodja. Toutes nos tentatives pour joindre le prélat catholique et la mère supérieure de la congrégation des sœurs franciscaines de Tchoumbé pour des amples explications se sont avérées vaines. Toutefois, certains paroissiens parlent des relations complexes entretenues par les séminaristes et les religieuses. Esther Ndalafina Mbujimayi, Radio Okapi.
Dans le Lualaba, le tribunal de commerce de Kolwezi a soufflé hier samedi 20 juillet sur sa 10e bougie. À cette occasion, une manifestation a été organisée sous le thème « Tribunal de commerce de Kolwezi, 10 ans, bilan et perspectives ». Pour le président de cette juridiction, la plupart des dossiers traités opposaient les entreprises minières. Frédéric Kenyé-Kitembo rassure qu'au regard du travail abattu, le bilan de cette première décennie est positif, mais certaines difficultés sont à relever. On écoute Frédéric Kenyé-Kitembo, président du tribunal de commerce de Kolwezi, au micro de Jean Gandou.
Le tribunal de commerce de Kolwezi a enregistré 391 dossiers. 281 ont été complètement traités, soit 77%. Il y a 25 dossiers en cours, 21 dossiers de non saisie et 64 dossiers qui sont en surséance. Pour ce qui est des matières d'urgence ou des contentieux d'exécution, nous pouvons retenir 282 dossiers enrôlés. Sur ces 282, il y a 248 qui ont été complètement traités, 4 sont en cours, 15 de non saisie et 15 de surséance. Pour les affaires pénales, il y a 23 dossiers enrôlés, tous les 23 ont été complètement examinés. Et pour les affaires de procédures collectives d'apurement du passif, il n'y a que 2 dossiers. Au vu de ces tableaux, nous estimons que le bilan est globalement bon. Mais il y a quelques difficultés, l'absence des frais de fonctionnement pour l'avenir, qui est amélioration des conditions socio-professionnelles de l'ensemble du personnel et la formation continue de tous les agents.
Au Congo central, le coordinateur de la société civile Force Vive du territoire de Luozi plaide pour le désenclavement de cette entité. Jean Bawawana affirme par exemple que la saison culturelle des oranges en ces moments, malheureusement, plusieurs tonnes pourrissent au débarcadère de la cité de Luozi à cause des perturbations que connaît le bac moteur qui assure la traversée entre les deux rives du fleuve Congo. On écoute Jean Bawawana au micro de Nana Purishmambou.
Nous avions souvent longtemps crié que souvent pendant la saison sèche, il y a des perturbations. Nous nous sentions un peu soulagés quand ils nous avaient dit qu'on avait apporté des moteurs neufs. On s'en était réjouis, mais malheureusement, présentement en tout cas, la situation est un peu dramatique. Vous voyez, c'est pendant ces périodes que les gens font le commerce des oranges et autres choses. Le bac ne fonctionne plus normalement. D'ailleurs, hier, il n'y avait qu'une seule traversée et le jour passé aussi. Donc, en fait, ça pénalise la population qui se débrouille. Ainsi, nous demandons aux autorités qui nous entendent qu'ils fassent quelque chose. Alors que nous avions longtemps commencé à demander un nouveau bac, et maintenant les petits commerçants vont acheter les oranges et les piments. Que les autorités qui nous entendent puissent une fois déjà réfléchir pour qu'ils puissent décanter cette situation. S'il faut attendre le nouveau bac et dans l'entretemps, la marchandise pourrie, donc ils trouvent d'abord en fait une solution qui peut une fois alléger la tâche des commerçants et faciliter la traversée.
Actualité internationale.
En Ukraine, une femme politique membre des courants nationalistes d'extrême droite, aux positions souvent ultra polémiques, a été assassinée par balle dans une rue de Lviv, dans l'ouest du pays. Hier, c'était vendredi 19 juillet, Irina Afarian était une ancienne députée éminente spécialiste de la langue ukrainienne. La radicalité de ses positions l'avait régulièrement entraînée dans des scandales publics. Le gouvernement américain a annoncé vendredi un plan pour mettre progressivement fin à l'utilisation de plastique à usage unique dans le cadre des activités fédérales d'ici 2035, une mesure aux conséquences notoires sur la pollution liée au plastique, le gouvernement fédéral américain étant le premier acheteur des biens et des services au monde.
L'invité.
Nous recevons Alphonse Mata, il est coordonnateur provincial du programme d'appui au développement rural, inclusif et résilient PADRIR. Après la mission de supervision conjointe gouvernement FIDA de toutes les activités financées par PADRIR dans le portefeuille FIDA, ce programme promet de s'améliorer et de donner un bon rendement à la communauté. Alphonse Mata s'entretient avec Florence Kizalunga.
Monsieur Alphonse Mata, bonjour.
Bonjour, madame journaliste.
Après près de 10 jours avec la mission de supervision conjointe gouvernement FIDA dans vos installations pour voir l'état d'avancement de projet PADRIR, alors après la présentation de résultats du terrain, comment appréciez-vous ce travail au besoin? Quelles sont vos impressions?
Les impressions sont bonnes. D'autant plus qu'il a été clairement constaté les avancements du projet. Il a été clairement remarqué au travers des témoignages des bénéficiaires, au travers des activités effectivement réalisées sur le terrain, que le PADRIR a fait des avancées significatives. Et ça nous réjouit que ça soit révélé comme tel. Et aussi des recommandations qui sont très constructives et qui nous permettront d'améliorer notre travail dans l'avenir.
Monsieur Alphonse, ça ne sera pas pour vous l'occasion maintenant de croiser les bras parce qu'on a applaudi ce que vous faites et à cela vous pouvez vous reposer?
Pas du tout. Il y a eu beaucoup de recommandations. Il y a eu beaucoup de recommandations qui nous permettent encore de revoir certaines choses, la manière dont elles ont été faites et aussi accélérer sur certains points. Donc, à côté de cela, on n'est qu'à la moitié de l'année 2024. Nous avons d'autres activités qui n'ont pas encore été réalisées pour l'année 2024. Donc, il n'y a pas raison de dormir sur son laurier.
En quoi est-ce que vous pouvez garantir la population du Manémont que vous allez changer votre façon de travailler suivant les recommandations formulées en votre faveur aujourd'hui?
Oui, déjà, la mission de supervision a reconnu la qualité du travail. Donc, nous allons continuer à travailler. Et aussi, là où il y a eu des petits soucis, et nous allons travailler ensemble avec le FIDA ainsi que les experts du gouvernement congolais pour ressortir des notes techniques sur tous les aspects qui ont été relevés. Et je pense que les deux délégations ont des compétences avérées sur les différentes recommandations et à sortir de ces notes techniques, nous travaillerons sur les plans d'action et cela nous permettra de rencontrer les préoccupations des uns et des autres et améliorer la qualité du travail qui est déjà très bien apprécié aussi.
Vous avez reçu des recommandations de la mission. Est-ce que de votre côté, PADRIR, vous avez aussi des recommandations à formuler côté mission?
Oui, nous avons formulé notamment la recommandation de voir que tout ce qui est ressorti comme préoccupation de la mission de supervision ne soit pas simplement des recommandations, mais que cela soit accompagné par des notes techniques sur chaque aspect. Et cela nous permettra cette fois-là directement à prendre le taureau par les cornes, comme on le dit. Donc, c'est ça la recommandation que moi je peux formuler auprès des délégations, c'est-à-dire le FIDA et le gouvernement.
PADRIR distribue les semences aux gens, ils sèment et cultivent, mais n'ont pas de route pour évacuer ces produits des champs. À quand les travaux des infrastructures routières?
Les infrastructures routières, nous pouvons dire que les gens ont comme impression que rien n'a encore débuté, mais au niveau des PADRIR, nous pouvons dire qu'il y a beaucoup d'avancées parce que ce n'est qu'au mois de mai que les fonds ont été disponibilisés pour le PADRIR. Mais aujourd'hui, nous sommes suffisamment avancés dans la procédure des passations des marchés pour les études techniques et études d'impact environnemental, mais aussi pour le recrutement de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. d'ouvrage pour ces travaux-là. Donc, nous avons suffisamment avancé dans ces sens-là et nous espérons que d'ici le mois de janvier 2024, nous pouvons déjà commencer à attribuer le marché pour les travaux.
Est-ce que après ces exercices, ceux qui n'avaient pas encore signé les protocoles, ça sera pour vous l'occasion maintenant de signer les protocoles avec vos bénéficiaires?
Oui, nous avons eu beaucoup de non-objections avant la supervision et même pendant la supervision. Et nous allons continuer à signer ces protocoles-là, les protocoles opérationnels pour lancer les activités sur certains domaines. Donc oui, nous allons continuer sur la même lancée.
Messieurs Alphonse Matin, merci.
Merci beaucoup, madame journaliste.
Ainsi s'achève ce journal mis en onde par Pierre Diassinois. Alain Hirung était à la coordination. Merci de nous avoir suivis.